Ça, c'est le son du début de l'émission, mais c'est aussi le son du début du spectacle.
Et c'est aussi le son de beaucoup de débuts de soirée. Le son du thé de beaucoup de soirées où on chante avec le saz et on boit du thé.
Le thé, deux fois raqué.
Deux fois le raqué, un peu plus tard.
Ouais, deux fois.
Mais là, il est 19h, donc...
Et c'est pas du thé à la menthe, c'est du thé noir.
C'est du thé noir.
Nous sommes à la Maison du Saz à Montreuil, entourée d'instruments orientaux, avec Atidjé Hauser et son père, le musicien Yavuz Hauser, pour parler de leur spectacle « Le chant du père » avec le thé et accompagné du luth oriental, le saz.
Et vous arrivez à retrouver le goût de l'Anatolie en Dordogne quand vous faites le thé ?
Pas exactement. Pas exactement. Non, il dit que Anadolu'nun tadını alabiliyor musun?
On alamayız.
O çaydan.
Non, alamayız onu.
Alamıyoruz mu? Il dit non, ça, le goût de l'Anatolie, on ne peut pas l'avoir.
Pas pareil, non.
Et cet instrument-là, votre saz, il vient d'Anatolie ? Vous l'avez emporté avec vous
ou... Celui-là pour juste les centres au milieu.
Lui, ce saz, c'est typique de l'Anatolie centrale.
Centrale. Il y en a, par exemple...
Ama diyor ki Türkiye'den mi getirdin bunu ?
Bunu mu? Oui, bunu Türkiye'den getirdim.
Oui, il a ramené de Turquie.
Ankara'dan aldım ben bunu.
D'Ankara.
Ankara. Bir de ben buna özel gittim aldım. Çünkü bunlar durmaz. Böyle koyunca. Ben dedim ki böyle koyunca dursun dedim ben.
Ouais.
Özel yaptırdım yani. Ha böyle dursun. Bak bunlar durmazlar.
Okay. C'est un saz comme un humain qui peut rester droit côté de toi.
Celui-là non.
Eux ils peuvent pas rester droit. C'est il est spécial pour ça. Il a demandé à ce qu'il puisse être debout.
Et là il vient de poser debout entre vous deux et il tient. Il tombe pas.
Il tombe pas.
Et vous avez appris à votre fille à jouer ?
Bana öğretilmedi diyor sazı.
Önceleri istemiyorlardı.
Ben istemiyordum.
Önceden hiç Mikael diyor ki geçen hiç istemedik baba diyor. Önceleri istemiyordu.
Il dit on m'a jamais eu envie.
Avant jamais.
Ouais,
c'est vrai ?
Non, j'ai toujours eu envie moi. C'est pas du tout. Non, j'ai toujours eu envie, mais bon, il faut le montrer quand même, il faut le donner le saz.
Non, bir de şöyle bir durum var. Her çalan öğretemez. Öğretmek ayrı bir şey.
Il dit apprendre c'est autre chose, jouer voilà. C'est quelque chose, mais celui qui joue ne sait pas forcément apprendre, donner, enfin la pédagogie du saz.
İkincisi bir de sazı seveceksin, sevmedin mi de olmaz.
Yani. Demek sevmiyor mu?
Hayır. Öğrenen kişi sevmesi lazım.
Il dit celui qui apprend doit aussi aimer le saz.
Sinon sevmiyorsan olmaz.
J'aime bien le saz.
Il est 20h sur France Culture et comment entrer dans le pays imaginaire de ses parents ? Comment pénétrer ce territoire inconnu ? Atidjé Hauser nous présente son père. Elle vient d'une famille turque assez traditionnelle et ne l'avait pas invitée voir ses premiers spectacles dans lesquels elle jouait. Puis, le chant du père est arrivé, comme une réconciliation entre là d'où l'on vient et là où l'on va. Puisqu'Atidjé Hauser a invité son père à faire partie du voyage, à y aller avec elle, faire un spectacle ensemble. Yavuz Hauser est poète et chanteur. Il connaît des centaines de chansons par cœur qu'il joue avec le saz, luth oriental, et prolongement de son corps selon sa fille. Atidjé prépare sur scène le rituel, le thé noir, l'espace. Le père n'arrive pas tout de suite, il faut attendre le moment de la présentation. Yavuz Hauser est arrivé depuis l'Anatolie, en Dordogne, dans la ville de Terrasson, en 1986. Avec le saz, la musique, avec son corps et ses bras que l'on attendait pour travailler. C'est un achik, un poète-chanteur, qui raconte depuis toujours beaucoup de fables à ses enfants et qui conseille à sa fille « Un bon récit, c'est 60% de vérité et 40% de mensonge. Sans mystère, tu passes trop vite à autre chose. » Atidjé Hauser raconte ces hommes venus de leur pays pour travailler, Elle les raconte pour éviter que ses pères meurent de discrétion, dit-elle. Éviter que tout se perde, les chants, les rituels, la mémoire des vies en exil. Il y a de la mélancolie, mais aussi les yeux d'une fille sur son père, qui réunit leurs deux pays imaginaires, navigue entre le turc et le français, et crée un nouveau territoire sur scène où tout cohabite. Nous sommes donc à la maison du Saz à Montreuil. Mahmoud Demir nous a accueillis autour d'un thé. Pour parler du spectacle d'Atice Ozer, le chant du père qui se jouera à la MC 93 de Bobigny du 12 au 21 janvier, avant une tournée à Albertville, Saint-Junien, Thionville et à Strasbourg au TNS en mai. Le spectacle Coup d'Our d'Atice Ozer est aussi en tournée à Évry et à Strasbourg en mai. Le musicien Antonin Triang nous a rejoint pour chanter avec Atice en fin d'émission. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture, nous sommes avec le thé noir et les instruments.
Et vous, Yavuz, c'est qui vous a appris ?
İstanbul'da gittim biraz. İstanbul'da gittim biraz. İstanbul, parce que travaille là-bas, ça fait 12 ans.
Bon. 12 ans, t'es resté là-bas.
Ouais, resté là-bas.
Orada mı, İstanbul'da mı öğrendin? Ouais. T'as appris à Istanbul?
Oui, c'est à Istanbul.
Ah ouais. Je pensais que c'était plus dans le village.
Ama çok gidemedim, işte gittiğim kadar. Yani keşke de daha fazla gitseydim.
Derse mi?
He.
Ah.
Derse gittiğim kadar gidebilirim.
Il y avait quelqu'un qui lui donnait des cours, il est parti un peu, mais il aurait aimé aller plus.
Ama şimdiki aklım olsa daha çok giderdim.
Ne öğretti sana? Doremi fa sol la öğretti mi?
Non, doremi öğretmiyorlardı orada o zaman.
Ah.
Düz saz öğretiyorlardı yani.
D'accord.
Yöreye göre, yöre hangi yöredesin o yörenin şeyini öğretiyorlar.
C'était, il disait non, on apprenait comme ça à l'oreille. Il a commencé par le chant. Il y avait tout le temps quelqu'un à côté de lui qui jouait pour lui, du saz.
Hiçbir zaman çalayım demedim.
Il s'est pas dit... Bon, mais après, c'est très vite. Hein. Enfin, il a commencé par le chant, on parle de 10 ans, 11 ans. C'est pas genre...
Hep yanımda çalan arkadaşlarım vardı.
Il y avait tout le temps des gens à côté de lui pour jouer, pour l'accompagner. Donc c'est après, un peu plus tard, qu'il a commencé à jouer.
Voilà.
Là, on a... Ça y est, on a bu notre première tasse
oui.
de thé. Est-ce qu'avant de chanter, justement, on fait un petit tour de...
Ouais.
Du lieu, ici?
Donc, on est ici dans la maison du Saz. C'est un endroit où on vient réparer les Saz, acheter des cordes. Et c'est un peu une boutique à bas de plafond.
Cours Stavario.
Il donne aussi des cours. C'est tenu par un certain Mahmoud, qui est très connu dans le milieu du Saz. Il est connu vraiment... Enfin, il y a 2 mois, j'étais à Berlin et je suis passée dans une maison du Saz de Berlin. Il y en a un peu partout, des maisons du Saz. Et on m'a dit, passe le bonjour à Mahmoud à Montreuil. Et c'est un peu un lieu... quand on rentre, on a l'impression de passer la porte de la Mésopotamie. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un petit foyer avec plein de tapis au mur, au sol. Il y a des banquettes turques reconstituées. Il y a des petites pantoufles qu'il y avait aussi chez mes parents, les pantoufles en laine accrochées.
Plus le keman aussi, il y a keman.
Il y a un keman, un violon turc là-bas, rond.
Il y a des ça en bas.
On va voir en bas.
Ouais. Et voilà Mahmoud qui joue au tavla.
On a dit on fait pas de bruit, mais c'est toi qui tu joues. Vas-y. Allez. Oh, deux chèches. Oh, c'est génial. Merci beaucoup, hein. Vous êtes bien arrivés. Hein.
Vous fait gagner. Et vous connaissez toutes les chansons de votre père ?
Non, je connais pas tout. Non, il en connaît beaucoup. Il en a vraiment plein. Et il a des chansons qu'il transmet, des vieilles chansons. De la tradition des Hachuk, enfin qui chante et qui le réarrange aussi à sa manière. Chaque Hachuk chante un peu à sa manière. Et ensuite, il a des chansons aussi qu'il écrit. Et je connais pas. Et ça, c'est un grand. C'est une immense perte, quoi. C'est. Puis ça, il enregistre pas hein, les chansons. Enfin, on sort pas de CD, de cassette. C'est pas du tout.
Elles sont pas écrites.
Il les écrit pas. Il a un petit cahier dans lequel il un brouillon où il écrit ses futures paroles et tout, mais il les écrit pas. J'ai essayé d'enregistrer. À un moment, j'étais un peu obsédée par ça. J'enregistrais toutes les chansons à chaque fois.
Eh bien, les gens qui ils ont entendu les chansons qui, à l'époque, il écrit son nom en dessous, il dit c'est à moi. C'est des vols.
Non, mais des fois, ils écrivent leur nom pour pas qu'on les oublie.
En plus, on disait, s'il y a des interdits avant les poésies aussi, beaucoup de. Il y a des belles poèmes qui sont interdits. Et qu'est-ce qu'il faisait alors le mec, il écrit lui-même, mais il dit pas son nom, parce que sinon, il va prisonner aussi. Le sens. C'était ça. Il dit, par exemple, si chez vous, c'est interdit la liberté, ben je veux dire encore la liberté. Ils étaient morts pour ça.
Ah, je sais que c'est une tradition en Anatolie, en Mésopotamie, c'est des poètes, chanteurs, ambulants, qui chantent avec leur saz.
Et on peut dire que Yavuz, votre père, c'est un hachik alors.
Moi, je le considère comme un hachouk quand je regarde la définition du hachouk.
Hachouk.
Quand on lâche ce que je vous ai dit, je trouve que mon père, c'est un hachouk. Bon, il le fait pas, il traverse pas les villages, il traverse des appartements, des HLM, ou des bars, ou des. Voilà, mais c'est la même chose pour moi, c'est vraiment. Et puis, il invente aussi des chansons. En fait, il reprend les chansons. Et il rajoute tout le temps des couplets à lui. Enfin, un hachouk, c'est entre tradition, entre reprise et invention. Et donc, je trouve que c'est. Et puis en plus, il fait aussi des commandes. Il chante aussi pour les gens. Des fois, il a des commandes pour quelqu'un qui meurt, pour quelqu'un qui a disparu, et il va chanter pour lui. On va ben connu, je suis allée faire connu. Il dit attention quand je parle, faut m'écouter aussi.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Nous sommes montés au premier étage de la maison du Saz à Montreuil. Au milieu de tous les instruments, Yavuz Osseur, le père d'Atidjé, a pris son saz et a commencé à chanter pour nous, comme il le fait dans le spectacle Le Chant du Père.
Girebilsen bu sinemde neler var, gülüp oynadım ele karşı, karşı ele karşı. Girebilsen bu sinemde neler var, gülüp oynadım ele karşı, karşı. Sabahın seheri günden ileri, ben kimi sevmişim senden ileri. Ziyaret olmuşsun kurban istersin, kurban bulamadım candan ileri. Kurban bulamadım candan. Ziyaret olmuşsun kurban istersin, kurban bulamadım candan ileri, kurban bulamadım candan. Şu dünyada muradım, sen kimin olmuşsun ona yanar. İki gözüm oldu gömür pınarım, çalay baktı sele karşıdı, karşıdı sele karşıdı. İki gözüm oldu gömül pınar, çalay baktı sele karşıdı, karşıdı sele karşıdı.
Il y a une scène du spectacle Le Chant du Père à TJ Hauser où on parle de votre prénom parce que quand votre père vous inscrit à la maternelle, on est en France et la maîtresse prononce mal le prénom à TJ et votre père n'ose pas la rectifier. Donc elle dit bienvenue à TJ, c'est bien inscrite. Est-ce que aujourd'hui encore vous restez dans ce doute-là que vous évoquez dans le spectacle entre les deux prononciations, entre les deux langues?
Oui, oui, tout à fait. Je suis vraiment dans l'entre-deux au niveau de la prononciation. C'est-à-dire que dans ma famille, ils sont tellement habitués que c'est devenu Atis. Dans une certaine partie de ma famille qui vit ici, en Turquie, ils m'appellent Hatice. Et des fois, ça dépend de la teneur de la conversation aussi. Si c'est des choses graves, on va m'appeler Hatice. Sinon... On m'appelle Atis, c'est devenu comme un prénom un peu un surnom. Et moi, c'est vrai que aussi, je disais Atis beaucoup, beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure, à un moment, je dis, mais c'est Atigé. Enfin, c'est comme si j'avais envie de rectifier ça.
Et votre père, il vous appelle comment?
Et mon père, Baba, c'est une bonne année. Ici, Miné, Dion.
Atis.
Voilà, il dit Atis, c'est-à-dire il garde le mélange. C'est un petit mélange, il garde le « ha » et il enlève le « je ».
Le facile « tu sais.
Et il s'était passé quoi en 2018 quand pour la première fois vous avez chanté tous les deux hors de la famille ou de la communauté turque? Vous racontez ça comme un des départs peut-être de l'idée du spectacle à TJ Hauser.
C'était la première fois que j'amenais mon père sur une scène amplifiée devant un public qui ne comprend pas sa langue, un public de français, et qui comprend pas les chants.
C'était où?
C'était au Théâtre de la Colline, qui avait organisé un événement en extérieur. Ils avaient installé une scène dehors, devant le Père Lachaise, et il fallait rendre hommage à un mort illustre du Père Lachaise. Et moi, je sais que au Père Lachaise, il y a la tombe de Ahmed Kaya, un chanteur, poète, auteur de chansons kurdes, qui est mort en exil à Paris. Et on avait envie de lui rendre hommage avec mon père. Et ça a été un départ pour moi. Parce que c'est la première fois où j'avais l'impression qu'il était comme un enfant, mon père, et que je le dirigeais sur un plateau. Et moi, dans ce que je transmettais aux gens, j'avais un peu fait une petite introduction en disant « il va chanter ça, ça, ça ». Et de raconter ça, je sais pas, je me suis dit « waouh ». Enfin, il y avait comme si c'était tous les mondes qui se rejoignaient... Là, c'était magique. Et puis moi, c'est dur d'avoir un... Enfin, c'est dur d'avoir un père. De base, c'est dur d'avoir un père. Mais encore plus quand il est immigré et que j'ai du mal à parler. Enfin, moi, le turc, je parle très, très mal. Et c'était un endroit de communication, vraiment. Quand je l'ai amené avec moi sur scène, un endroit de partage par la musique, par le théâtre, la beauté, le...
Et la première fois que vous lui présentez ou que vous lui parlez de l'idée de l'emmener sur scène et de faire un spectacle ensemble, comment vous lui présentez les choses?
Alors,
et
je
qu'est-ce
lui
qu'il vous répond?
Pas d'abord, je lui présente pas. On va faire un spectacle. Il voit pas du tout ce que ça peut être. Donc, je lui dis juste, j'ai une résidence en Charente. C'était à la Maison Maria Cazares. J'avais une première résidence et je lui dis, écoute, j'ai une résidence. Pour un projet que j'aimerais écrire, est-ce que tu veux bien m'accompagner? Et là, il me dit non, je viens pas. Il dit, après, ensuite, il me dit, mais si tu vas être tout seul dans cette résidence, toute seule? J'ai dit, oui, je serai toute seule dans une maison ancienne au milieu de la Charente, au milieu de la prairie, il n'y a rien. Il me dit, mais jamais de la vie, je te laisse partir seule dans une maison hantée, parce qu'il y a c'est la maison de Maria Cazares. je pense qu'elle y a encore un peu dedans, Maria Cazares, tout est resté intact. Et donc, il est venu avec moi, et c'était juste une résidence. Tu fais juste de la musique en fond sonore. Moi, je vais dire des textes, mais je ne traduisais pas vraiment tout ce que je disais. Ça parlait quand même d'une relation père-fille. Grosso modo, il savait ce que c'était, mais ce n'était pas explicite.
Mais vous, aviez déjà en tête le chant du père,
oui,
avec son histoire.
Je cherchais une forme qu'on pourrait jouer ensemble. Ouais. J'avais déjà en tête ça. Je me suis step by step. Tout le monde croit que c'est du thé à la menthe, mais le thé à la menthe, ça n'existe pas ici. C'est un thé noir. Plus on boit du thé, plus le thé est noir. Plus le thé est noir, plus le père chante des chansons tristes. Plus les chansons tristes, plus je sers du thé. Plus je sers du thé, plus il pleure. Plus il pleure, plus il demande au père de chanter des chansons tristes. Plus les chansons tristes, plus ils boivent du thé. Plus ils boivent du thé, plus le thé que je sers est noir. Plus le thé que je sers est noir dans les tulipes. Plus il demande au père de chanter des chansons tristes. Plus les chansons tristes, plus ils boivent du thé, plus ils boivent du thé, plus ils pleurent. La petite cuillère posée à l'horizontale sur la petite tulipe, ça veut dire c'est bon, c'est assez. On a assez pleuré, et là, on passe au raki.
Au début du spectacle, le chant du père, il y a tout un rituel, enfin vous ne présentez pas tout de suite votre père aux spectateurs et aux spectatrices. Il y a le thé, il y a toute
les,
une,
invités.
Les invités, la présentation de ce qui va se passer. Et je crois que vous disiez à TJ Hauser, je me rendais pas compte à quel point tout était très théâtral dans notre façon de faire, de vivre à l'intérieur de la famille, de la communauté. Qu'est-ce qui était théâtral, et est-ce que c'est ce rituel-là en faisait partie?
Alors oui, c'est vrai que je me rendais pas compte, je pensais pas que c'était une forme de représentation de soi aussi. C'est des codes où ça se passe toujours comme ça. Et moi, même eux, ils s'en rendent pas compte, mais en le nommant, moi, ça devient des codes. Et c'est aussi une représentation de soi. C'est théâtral dans le sens où c'est ritualisé. Et c'est aussi une manière de mettre en scène la mélancolie, la joie extrême à être triste. Ça, c'est un culte chez nous. Voilà, toutes les chansons, c'est beaucoup de peine et de séparation, et ça parle de toutes les formes de séparation physique aux séparations amoureuses. On dit, nous, chez nous, que le corps de l'aimé devient la terre de l'exil qu'on a quitté. Voilà. La terre de l'aimé.
Et c'était quoi ces moments de rituels et de réunions et de chansons quand vous étiez enfant? C'était des moments particulier parce qu'il y avait une naissance, ou alors c'était chaque semaine parce qu'on se réunissait pour chanter?
Alors, c'est plein de raisons différentes de se réunir. Ça peut être à la fois des événements comme des cérémonies, par exemple, ça peut être des moments où on se rassemble pour quelqu'un qui va bientôt mourir, qui est sur son lit de mort. Donc lui, souvent, il va chanter pour cette personne-là. C'est l'occasion d'un rassemblement. C'est aussi des moments, c'est beaucoup plus régulier, des moments où on se réunit et on chante, il chante. Pour moi, c'est une manière de faire de la poésie et du théâtre, en fait. C'est parce que c'est des moments de rassemblement. Mais c'est intime, on est 20, 30. Et c'est en le nommant, en fait, c'est après, quoi, c'est en grandissant que je me rends compte qu'on s'est beaucoup réunis autour du toujours le saz, toujours les chants, toujours le thé, toujours les invités assis comme ça. Et c'est ce qui fait cérémonie.
Et à vous, Hauser, vous saviez ce que ATJ voulait faire avec le spectacle Le Chant du Père? Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée du spectacle?
Yok, ben bilmiyordum.
Non, il savait pas qu'il allait faire une pièce de théâtre.
Benim için zor oldu.
Ça a été dur pour lui.
Parce que le théâtre, la musique, c'est pas pareil. Ama beni ikna etti yani, yarısında gireceğim dedi, bilmem ne dedi.
Mais elle a réussi à me convaincre en me disant que j'allais rentrer à la moitié.
Comme ça,
bon, il y a d'avoir beaucoup de musique.
Tamam.
Je dis d'accord.
Sonra alıştık, yavaş yavaş, après doucement, alıştık.
Mais au fur et à mesure, il s'est habitué.
Hatta önceleri 3 tane yapıyorduk, tamam mı? Böyle alkışlıyorlardı. Ben bir kere yapar yeter diyordum.
Ah oui, par exemple, il comprenait pas pourquoi on saluait 3 fois. On allait saluer 3 fois.
Moi, je l'ai eu une, ça suffit. Pourquoi 3?
Pourquoi il salue 3 fois?
Et de baba, allez, baba, allez. C'est vrai, c'est pas facile.
C'est le truc le plus dur du spectacle.
Comme musique.
Ça va si c'est ça le plus dur.
Oui, ça va. Baba! Baba! Baba! Baba! Baba, neredesin baba? Baba, baba neredesin? Ha? Orada mısın? Ha baba, ha baba burada. Baba, geliyor mu? Est-ce que tu...
Tamam, geldim.
Bien. Niye geliyorsun?
Sana yardım edeceğim.
Oui, niye geliyorum? Niye geliyorum? Çünkü sen gelmezsen...
Olmuyor.
Olmuyor. Burada, si tu viens pas, de toute façon, le spectacle s'arrête. Donc, Bonsoir. Le public, babam, le public. O zaman, bak çayları, tamam, j'ai préparé le thé, tu vas m'aider à faire le thé?
Tamam, ya.
Tamam, o zaman sana. Otur buraya.
Sana yardım edeyim.
Bütün çayları doldur. Tamam. Remplis tous les verres.
Normalman çayları kızlar doldurur ama ben senin için doldurayım hadi.
Normalement, ce sont les femmes qui font le thé, mais il accepte de le faire ce soir, pour moi, pour vous.
Tiyatro yaparken yanlış bir şey yapsam görüyor, ekleyemem. Yani sahnede düşersin, hadi ne yapacaksın? Yani riskli.
Il dit que c'est quelque chose de très écrit, le théâtre, que tu peux pas te permettre trop de variations, alors que moi, quand je joue tout seul, il y a que des variations.
Eğitimini alsan tamam, d'accord. Eğitimini alsan kolay.
Dis, moi j'ai pas pris de cours de théâtre. Donc,
Sinon, pour moi, pas facile.
Je vous fais écouter une archive de 2003 qui parle de la tradition des chants populaires en Anatolie.
Kenan Öztürk, docteur en histoire, est féru de la musique de son pays, la Turquie.
La musique populaire de pays Anatolie, c'est anonyme. Donc c'est la transmission orale, ça passe d'une génération à l'autre. C'est basé sur la poésie. Et la musique complète la poésie. Des fois, c'est le contraire. En général, c'est la poésie qui compte. Comme je
Donc, en général, la poésie est première.
Et
la musique se crée en fonction de la métrique poétique.
Absolument. Donc, les Ashuk, quand ils se promenaient, leur seul outil qu'ils avaient avec eux, c'était leur instrument qui était le saz. Donc c'est avec ça qu'ils se promenaient en Anatolie. Donc avec leur connaissance poétique dans leur tête et leur saz, ils promenaient d'un village à l'autre pour transmettre leur connaissance, leur musique, ce qu'ils voulaient dire à la population.
Leur philosophie et leur morale en fait.
Absolument.
Il y a vous, Osseur, comment on apprend tous ces chants? Et parce que là, il parle de la poésie, donc il y a des mots avant la musique, enfin en tout cas avec. Comment c'est transmis quand vous grandissez, que vous êtes enfant, adolescent?
Nesilden nesile geliyor. Mesela ben söylüyorum 40 sene, ondan sonra sen söylüyorsun 40 sene. Mesela nesilden nesile geliyor böyle.
Oui, c'est les lois de la transmission, c'est-à-dire qu'un âge qui va chanter 40 ans, avant lui, il y aura 20 ans avant, il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Quand lui va mourir, c'est l'autre qui va le chanter. Et donc depuis le 15e siècle, genre depuis des siècles, c'est comme ça que ça s'est arrivé jusqu'à nous.
Voilà, nesilden nesile geliyor. Eskiden mesela şey de yoktu ama... çekemiyorum. Kasette yok ama böyle nesilden nesile geliyor.
De génération en génération, sans cassette, sans enregistrement, c'est comme ça que c'est...
50 böyle...
C'est arrivé.
Mesela ben 40 senelik türküyü hatırlıyorum halen. 50 senelik türküyü hatırlıyorum halen.
Dis, je l'oublie jamais un chant. Il l'oubliera jamais.
50 ans, 40 ans.
Depuis 50 ans qu'il le chante, il va jamais l'oublier.
Et vous arrivez de l'Anatolie en Dordogne, en France, en 1986. Vous avez jamais arrêté la musique en arrivant
Non, toujours. Arrêté, je ne sais pas, mais non, toujours. Mais je travaille, mais toujours à côté, musique. Belki bu aileden de geliyor. Çünkü babam müziği severdi. Bu kız kardeşlerim müzik sever, çalıyor.
Ça doit venir aussi de ma famille parce que mon père jouait aussi. un petit peu. Il chantait, son père et ses sœurs avaient un girl band dans le village.
Ama 2000 personnes, oui, 2000 personnes ou habitants, mais une seule famille musicienne, c'est tout. Il n'y a pas.
Kim?
Bizik işte.
Ah oui, bah, on est la seule famille musicienne.
Et je vous fais écouter une autre voix, celle-là date de 1978, c'est un journaliste turc qui parle du poète Nasreddin Hoca du XIIIe siècle.
Alors, avant, pendant des siècles, l'esprit humoristique des Turcs ont fait d'anecdotes, n'est-ce pas? Toutes ces anecdotes ont un esprit de critique. Surtout Nasreddin Hoca. Nasreddin Hoca, nous ne connaissons rien de ce bonhomme. C'est un philosophe qui a vécu peut-être au commencement des Ottomans, n'est-ce pas?
Oui.
Mais regardez quelle force d'esprit et de critique que, et malgré aucun document, nous possédons encore une centaine d'anecdotes qui appartiennent sûrement à lui.
Et il parle de Nasreddin Hoca et de la force de l'esprit critique de ces poèmes-là, les chants qui vous sont transmis de génération en génération jusqu'à vous, Atice, de quoi il parle? Parce que vous parlez de mélancolie, mais est-ce qu'il y a une force aussi critique sur les temps qui traversent?
Oui, il y a vraiment... La critique, c'est la base... Ça critique beaucoup les puissants, les ceux qui se jouent du monde aussi, l'arrogance. C'est très, enfin, faut être humble quoi. Il y a quelque chose de, faut pas faire son. Je parle vraiment très, avec des mots simples, mais c'est genre, faut pas faire son beau, faut pas se croire au-dessus des autres. Faut rester des humains, des. Et sa critique en douce, ça a beaucoup critiqué en douce, enfin dans les chants, les en douce. Quand je dis en douce, c'est on va jamais dire le nom du puissant en question, mais tout le monde sait de qui ça parle.
Et quand vous présentez votre père dans le spectacle Le Chant du Père, quand il arrive, donc à peu près au milieu du spectacle, vous dites que en parlant de lui, mais de tous ces hommes qui sont aussi arrivés en France après une vie dans un autre pays, ils ont un pouvoir, c'est d'être invisible. C'est quoi ce pouvoir-là?
Le pouvoir de raser les murs. Enfin, c'est un pouvoir de comment dire, c'est parce qu'on on les voit pas beaucoup, on les entend pas. Enfin, moi, j'ai longtemps. On n'a pas accès à eux, enfin, on les voit derrière des vitrines de cafés, de bars, de... Ils sont invisibles, on les voit jamais, on les entend pas. Enfin, moi, j'entends pas des gens comme mon père à la télé, ou ailleurs, ou sur des plateaux.
C'est quoi des gens comme votre père?
Bah, des personnes qui ont... Des immigrés, qui ont quitté un pays, qui se sont sacrifiés pour leurs enfants, qui ont quitté leur terre natale, qui ont passé toute leur vie à travailler dans des usines, à abîmer leur corps, à mourir plus tôt que la moyenne, à se sacrifier vraiment pour que nous, on puisse faire des études... Des personnes aussi qui n'ont pas forcément la langue, qui ont du mal à parler la langue, ou qui parfois ne veulent pas parler la langue, qui font un blocage parce que attraper cette langue-là, la langue d'ici, du pays, de la France, ça serait comme trahir, vraiment, ce serait la dernière trahison. Enfin, je le vois comme ça, mais parce que, enfin, c'est... Et que, bah, justement, oui, c'est la dernière trahison, parce que moi, je parle pas bien turc. Je parle très mal, je parle comme un enfant de 6 ans. Et malgré ça, le fait qu'il, même s'il parle lui aussi comme l'enfant de 6 ans, ma langue à moi, en français, voilà, et ce qui reste, donc c'est... c'est des gens invisibles, c'est des personnes qui disparaissent. Et
qui sont pas forcément racontées.
Oui, qui sont pas racontées. Oui, dans les récits. Oui, ça c'est. Oui, c'est pour ça que je le raconte. C'est la première des choses, c'est que si moi je le raconte pas, personne va le raconter. Il y a vraiment, je suis obligée. Il y a un intermède. Je suis là. Si en plus je raconte, je commence à raconter des trucs Shakespeare et tout pour mon premier spectacle, non, c'est bon, on est perdu, c'est fini, quoi. On s'en va. Il y a plus rien, quoi. C'est. Non, c'était important de rendre hommage et de mettre cette tradition-là au même niveau que d'autres traditions de théâtre.
Et de redonner la voix, puisque là, il s'agit de voix et de chants et de mots, de façon...
Oui. Oui, oui, c'est de évidente. Redonner la voix, oui. Et de transmettre et de mettre sur un socle... comme les sculptures qu'on met en avant, comme les cadres, comme un plateau. Ils sont plusieurs des messieurs comme lui à rôder dans les cafés, dans les bars PMU ou dans l'arrière-salle de restaurant kebab. Vous les voyez ? Des vieux messieurs groupés. Des messieurs avec de grosses mains, assis souvent à trois ou quatre autour d'un backgammon, autour d'un tavla. Teint cramé, visage ridé, dos courbé, et mon père au milieu de la fumée. Vous les voyez ? Ils ont un pouvoir, celui d'être invisibles. Souvent, pour arriver ici, ils rasent les murs, ils sont discrets. Ils entrent dans le café. Non. Non, ils n'entrent pas. Ils sont là, installés depuis toujours, posés ici. Le café s'est construit autour d'eux. Tu passes devant la vitrine et ils ne te voient pas. Ils ne bougent pas. Ici, tu oublies le temps. Ici, c'est un trou noir où nos pères sont attirés comme des étoiles.
Et vous racontez comme votre père raconte justement beaucoup d'histoires depuis que vous êtes petite et vous dit que dans les histoires, il faut souvent 60% de vérité, 40% de mensonges et à l'intérieur des 40%, 10% de mystère. Mm. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez en tête pour le spectacle et pour dans la façon que vous avez de raconter les histoires ?
Totalement, totalement. J'adore, je me mets en scène. Donc ça part de la réalité, mais c'est fantasmé aussi, c'est... mythifié, enfin c'est, il y a une manière de faire de sa vie une histoire qu'on raconte. On adore raconter des histoires et exagérer, mais c'est la base. Enfin c'est, et puis plus on le raconte, plus c'est exagéré.
Et on ne sait jamais ce qui est vrai ou faux.
Ouais, on ne sait jamais ce qui est vrai et faux, où est la limite et même pour les Oui, c'est une manière de distordre la réalité pour mieux la raconter. C'est vraiment ça. C'est pour que ça soit plus signifiant.
Et dans le spectacle, vous dites « J'aimerais bien le rejoindre dans son pays imaginaire ». Votre père, il ressemble à quoi, ce pays imaginaire, selon vous ?
C'est la petite Turquie qui promène dans sa tête. C'est le pays imaginaire... c'est celui qu'on aimerait retrouver, mais quand tu y vas, tu te rends compte que même il n'existe pas là-bas, donc il est dans l'imaginaire... Parce qu'il est comme il l'a quitté en 86 et ça a beaucoup changé. Il n'y a plus personne dans le village. C'est ce pays-là et c'est cette éternelle mélancolie. Elle vient de là aussi. Enfin, j'avais envie de voir, de rentrer dedans. On nous a ressassé des histoires de village. On adore. C'est un peu, ça fait un peu peur. Il lui est arrivé des choses, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est invraisemblable, enfin, c'est pas possible. Non, enfin, t'as pas vu des êtres étranges ou des choses, enfin, il y a vraiment, et c'est ce pays imaginaire où de fait de légendes et de mystères que j'aimerais retrouver.
Et votre pays imaginaire à vous, il est très différent?
Ah oui, moi, je me fais aussi une image de ce qu'il me raconte lui. Parfois, je me fais une image de lui encore plus. Plus stéréotypé, caricatural d'un monsieur d'un paysan dans une steppe qui vit dans des tentes et qui se déplace en fonction des ventes de moutons. J'aime bien dire que je suis d'une d'une famille de nomades qui se promènent dans les steppes et qui vit dans une famille qui vit dans des tentes. Comme voilà, on a fait un peu de recherche dans la famille. Apparemment, on serait descendant de Turkmènes, ça j'adore. Donc c'est vraiment un truc et c'est quelque chose de qui nourrit. Et puis dans la musique aussi, on se rend compte que en fait les Hachek, c'était beaucoup lié aux voyageurs nomades, aux nomades. Donc c'est un art solitaire parce qu'ils jouaient avec personne, il n'y avait pas d'autres musiciens dans la tente. Donc ça s'est développé comme ça. Donc je dis, ah ouais, ça doit venir de ça. Et puis nous, on a changé de nom. Ça s'appelle Euser, mon nom de famille. Ça veut dire, c'est un nom qui a été rajouté tard après avec Atatürk, parce que c'était pour cacher le fait qu'on était, notre nom à l'origine, c'est Karabaşoğlu, les hommes à la face noire. Donc, pour cacher le fait qu'on était peut-être, on venait un peu d'ailleurs, on avait une face noire, on a mis Özer qui veut dire pur turc. Donc, voilà. Donc là, tu peux inventer plein d'histoires. Voilà.
Et pourquoi, à vous, Atilje, c'est l'enfant qui vous inquiète le plus ?
Bon, maintenant.
Maintenant, moins. Et vous qui êtes musicien, est-ce que vous étiez heureux quand votre fille a commencé à faire du théâtre ?
Önce olmadım.
Non, au départ, il voulait pas.
Çünkü öğretmen olarak okuttuk.
Il voulait que je sois institutrice, professeur.
Ama madem onu seçtin, hani seçtiğin için bir şey demedik yani hani. Ha, memnun olmadık ama sen seçtiğin için.
On n'était pas content, mais tu l'as choisi. Elle l'a choisi.
Çünkü tiyatro yapan insanın bir yerde olmaz. Yani istiyorduk ki bize evim olsun, balkon olsun. Bir yerde olmaz yani.
Il voulait que j'ai une maison quelque part posée.
C'est vrai, ça tiyatro difficile.
Et qu'en fait, le théâtre, t'es jamais posé.
Aujourd'hui ici, demain là, après demain là, partout.
Aşıklar gibi diyorum. Aşıklar gibi. Comme les amoureux.
Aşıklar gibi.
Je me promène aussi comme toi. Toi, tu te promènes aussi.
yani onun için ama metne alıştık.
Si maintenant on s'habitue.
Mon père, c'est le roi de la mélancolie. Chaque fois qu'il chante, il perd un pays. C'est pas la tristesse du matin ou le blues du dimanche soir. C'est le hasret, c'est le gourbet. C'est ce qui vient du ventre ou... D'où ça vient, papa? D'où ça vient?
Döndüm daldan düşen kuru yaprağa, leylim ley.
Je marche seul sur la steppe.
Seher gelip götür beni, kır beni, leylim ley.
Ô vent de l'aube, brise-moi.
Et maintenant que vous faites du théâtre, vous, avec elle, même si vous n'êtes pas habitué, comme vous nous disiez tout à l'heure, aux saluts et aux applaudissements qui reviennent à la fin, qu'est-ce que, à la fin du spectacle, quand vous avez joué tous les deux, comment vous vous sentez ? C'est quoi la sensation ?
Sonunda nasılsın, oyun verdiğin zaman, oyunun sonunda nasılsın ?
Demek ki diyorum, bazı şeyleri de yapabiliriz yani. Yani öyle hissediyorum yani. Tiyatroyu da yapabilirim çık yani. Ben kendi açımdan diyorum.
À la fin, je me sens comme si ah, je peux aussi faire du théâtre. C'est aussi dans mes.
Avant, c'est vrai, c'est théâtre difficile. Mais maintenant, boum, ça va.
Ça va, ouais. C'est vrai, en plus, il est beaucoup plus à l'aise que moi. Il stresse beaucoup moins. Il est naturel.
Et on parlait de rituels et de différents moments de la vie. Coup d'our, le spectacle que vous imaginez, ça, c'est vraiment partie de l'observation des mariages.
Là, c'est vraiment tous les mariages que j'ai fait, parce que en plus de jouer dans les foyers, il y a aussi dans les autres rituels, dans les mariages, et j'en ai fait beaucoup, des mariages avec mon père. Et même si mon père n'était pas musicien, en tant que turc, t'es obligé d'aller dans les mariages. C'est vraiment un endroit de communautaire où tout le monde est invité, tout le monde se réunit, et c'est un endroit, comme je dis, de monstration. C'est pour se montrer, c'est pour dire qu'on est bien dans la communauté. Et j'avais envie de partager ces rituels-là. Et à l'intérieur de ça, d'observer aussi, pareil, c'est à partir de mon observation, de déformer, de chercher ce qui est intéressant. Ce qui m'a intéressé, c'est la transe dans les mariages, ou la musique communautaire qui fait communauté. Comment elle aide à faire communauté et comment, des fois, elle aide à maintenir certaines normes. Et comment, des fois, elle aide à faire sortir la transe pour mieux la contrôler, pour pas qu'elle déborde ailleurs.
Et ça veut dire quoi, Koudour ?
Alors, Koudour, en ancien romani turcique, ça veut dire littéralement mourir d'amour réprimé. Mourir d'amour inassouvi, de désir inassouvi. On peut en mourir. Donc je me suis dit, à partir de ça, ok. Il y a un mot, un ancien mot qui dit ça. Je dis, mais alors attends. Ça veut dire, c'est un mot aussi qu'on chante dans le mariage au moment du Koudour ou des rythmes à 9 temps. Je me suis dit, bon, bah, alors s'il y a un mot pour le dire, c'est qu'il y a des gens qui sont morts de ça. Et c'est cette histoire-là qu'on a racontée. Pourquoi on meurt de désir ? Pourquoi on peut en mourir ? Pourquoi ce désir, il est tellement étouffé que ça peut te rendre fou ou te mettre par terre.
Et est-ce que les chants traditionnels que votre père chante et vous transmet, dont on parlait là, ce sont ces chants-là que vous avez...
Pas du tout.
Pas du tout.
Alors c'est ça, c'est très intéressant, c'est que la musique turque, la musique anatolienne est très variée. Faut pas essentialiser ou réduire. Ça, c'est un genre, le chant du père, c'est vraiment le genre des aşık, des amoureux très, très intimes. Et la musique de mariage qu'on fait, c'est une autre musique, mais il y a quand même du saz, ça part, il y a des chants qui sont communs, mais c'est une musique qui sert au rituel du mariage, à danser, à se sortir de soi, enfin, d'une autre manière, très, beaucoup plus corporelle que dans les chants intimes.
Et à côté de vous, il y a, oui, j'allais dire, Antoine Triangle.
Enfin, moi, je connais que cette musique par elle. Et il y a des musiques variées aussi, parce que dans la diaspora, il s'agit aussi de faire des musiques qui parlent à tout le monde dans le public. Dans les convives du mariage, il y a des gens qui viennent de la mer Noire, il y a des Roms, il y a des gens qui viennent d'Istanbul, il y a des gens qui viennent de l'Est. Et ça fait une espèce de florilège de plein de choses comme ça.
Ouais, c'est de la musique d'ici, de la diaspora, des mariages de la diaspora. Et dans les mariages de la diaspora, il y a des gens de toute la Turquie. Et donc ils jouent un peu, c'est vraiment très spécial là, ici. Moi, quand je dis que je connais ces danses-là, ces chants-là, que je vais en Turquie avec ça, ils disent, mais t'es complètement... Je sais pas si c'est des choses de plouc, quoi. C'est vieux jeu, enfin, c'est des trucs qui n'ont pas bougé. En plus, c'est une diaspora qui veut surtout pas perdre son pays, donc ils refont tous les rituels comme c'était. Ils font des rituels mélangés parce qu'il faut faire plaisir à ceux de la mer Noire, aux Roms. Donc on fait 15 minutes de ça, 15 minutes de ça, 15 minutes. Donc je connais un petit panel comme ça de la Turquie. Et c'est vraiment de la musique d'ici, donc c'est de la musique française, enfin, de turque française. Hein. Des salles des fêtes de banlieue. De villes telles Bordeaux, Sarcelles.
Et dans Koudour, il y a la musique et la fête, mais il y a aussi le récit, justement. C'est qui cette femme au tambour que vous avez imaginée ?
La femme au tambour, c'est comme je mélange réalité et mythe, fiction que je me fais dans ma tête, je me suis dit, il faut quelqu'un qui, comme une maîtresse de cérémonie, qui prend le public par la main, pour les initier à ces rituels, pour raconter ces rituels. Et comme j'ai vu pas beaucoup de femmes jouer de la musique dans les mariages, j'en ai vu quasiment pas, j'en ai pas vu, j'avais envie de prendre, c'est une manière de prendre possession du pouvoir de la musique. Et c'est la femme au tambour, parce que le tambour, c'est le plus gros instrument qui fait le plus de bruit. Et dans la vibration du tambour, dans le fait que c'est de la peau animale, quelque chose d'assez archaïque, un peu terrien, que j'aime beaucoup, et qui contrebalance avec la figure de cette femme qui est très apprêtée, comme dans un mariage, avec des très femmes, très serpents. Enfin, oh là là, c'est horrible. J'assimile la femme au serpent, mais oui. Mais en fait, c'est un truc que nous... Enfin, la femme, c'est de la sensualité. Ça ondule, ça bouge, c'est... Le ventre, les seins, c'est le... Et donc... Mais quand je le joue, c'est pas du tout... C'est ça, avec beaucoup de masculinité. Et de... Ah, j'ai une robe et j'ai des baskets, je tape dans le tambour, je rentre en transe, je prends une voix grave, je chante qu'avec une voix grave, je prends des voix d'hommes. Je m'amuse beaucoup de ces codes-là.
Et puis comme tu es un peu devant un public qui ne connaît pas forcément ce monde-là, ces mariages, et que même nous, les musiciens, on ne connaît pas, j'ai l'impression que tu passes à travers tous les personnages. Enfin, tu nous montres chacun des personnages, donc tu te transformes en Fadime, en Fusune, en plein de gens. Ouais, tu incarnes tout le mariage toute seule, quoi. Nous, on t'accompagne, on essaye. Et alors, ce qui est drôle, c'est que les trois autres musiciens, on n'est pas ni turc et on n'est pas forcément très connaisseur de musique turque au départ. Et donc, il y a une histoire aussi de transmission et de déformation par aussi un peu ce pays imaginaire dont on parle depuis tout à l'heure, qui fait que, ne le connaissant pas et le découvrant par des récits, par des choses qui sont des fois transformées, et puis par ce qu'on y met aussi, nous, et ben ça se transforme. J'aime bien.
Et quand votre père voit Koudour, il reconnaît quoi?
Il n'a pas vu Koudour. C'est ma mère, elle a vu. Non, mais parce que Koudour, je rentre quand même dans des états. Je rentre dans des états où j'ai pas trop envie qu'il voit.
D'accord.
Sinon, ou si je sais qu'il est dans la salle, je vais pas rentrer dans ces états-là.
Donc il va pas.
Donc
venir.
Je préfère sauver le spectacle.
Donc il viendra pas.
Non, il viendra peut-être une version piano-voix dans un.
Il a vu en duo.
Oui, en duo piano-voix, il avait vu un petit peu, mais
c'est pas raisonnable.
Non, mais sinon je vais pas faire la même chose. Je ferai pas la même chose, c'est sûr.
Et votre mère, ça a été?
Ma mère, elle adore. Parce que c'est très féminin. On est dans, c'est très féminin. Je parle beaucoup des femmes.
C'est un peu le chant de la mère, en fait.
Ouais, c'est un peu le chant de la mère. Mais dans les mariages, c'est beaucoup de femmes. Les femmes, elles adorent les mariages. Elles dansent. C'est les moments où tu peux danser. On va pas avoir des concerts. Enfin, moi, dans la communauté où j'ai grandi, tu vas pas en boîte de nuit. Tu vas jamais en boîte. C'est interdit d'aller en boîte de nuit. Moi, j'avais pas le droit d'aller en boîte de nuit. Donc, tu vas dans les mariages. Où tout est éclairé en néon, ça. Tout est hyper éclairé. Donc, la moindre petite déviation, elle est visible et ça prend des proportions énormes quand tu essaies de te lâcher. Et donc, ma mère, quand elle voit ça et que je me lâche et qu'au théâtre, on a des ombres et des lumières, en plus, c'est très clair-obscur, la lumière, ça. C'est un endroit de enfin, salvateur, enfin, de joie à extérioriser par la musique. Alors, c'est une chanson qu'on a adaptée avec Antonin Triwong d'un morceau traditionnel turc, Nardanesi, qui appartient à l'aşık Neşet Ertaş, l'amoureux Neşet Ertaş. Oyar zülfünü tarar da gönül dengini aramar. Oyar zülfünü tarar da gönül dengini aramar. Bu dünyada sevmeyen de ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyen de ahirette neye yarar? Nardanesi danesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nardanesi danesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nardanesi danesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nardanesi danesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nardanesi danesi de seviyorum bir tanesi. Güzeller.
bizi.
Güzellerini dinleden
sevdim bir danisi.
Nardanisi,
danisi de. Nardanisi, nardanisi.
Güzellerini dinleden
sevdim bir danisi. Nardanisi, danisi de. Seviyorum bir danisi.
Güzellerin içinde de
sevdim bir tanesi. Nar tanesi, tanesi de. Nar tanesi, nanar tanesi.
Güzellerin içinde de
sevdim bir tanesi.
Nar tanesi, tanesi de.
Nar tanesi, nanar.
Votre père ne peut pas s'empêcher de le chanter en même temps.
Il ne peut pas s'empêcher de chanter. Et à un moment, je lui ai même dit, je ne sais pas si ça va être capté, je lui ai même dit, c'est bon, arrête, mais discrètement, je lui ai fait un petit signe, arrête, parce que comme on a fait des arrangements, des fois, il va chanter, il va continuer dans la tonalité, mais nous, on monte, on a fait un arrangement où il monte, donc du coup, il va me mettre dedans.
Et à vous, vous l'auriez, comment vous le chantez, ce chant traditionnel?
O yer zülfünü darar da gönül yerini arar. Şu dünyada sevmeyen de ölür seneye yarar. Nar tanesi, tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Comme ça.
Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Dupéron pour la préparation, à la prise de son Yvan Turc, au mixage Manon Houssin.